Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ce soir à la une, Emmanuel Macron peaufine ses notes. Le chef de l'État s'adressera aux Français dans 2 heures. Alors, quelles annonces, quelles mesures? Les dossiers sont nombreux. Troisième dose, réforme des retraites ou encore pouvoir d'achat. Dans un instant, nous allons évoquer les hypothèses sur la table de l'Élysée. Et puis à 20h précise, édition spéciale, vous suivrez la prise de parole du président sur RTL. Ensuite, nous décrypterons, nous analyserons cette allocution jusqu'à 21h avec pour vous servir nos éditorialistes et spécialistes maison Olivier Bost, Sophie Orange, Martial You, mais également avec nos invités Yves Verrier, leader de Force Ouvrière, et Gilles Pialoux, chef de service d'un grand hôpital parisien. Les autres titres de l'actualité maintenant, à suivre dans votre journal. Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. En Mayenne, l'enquête désormais ouverte pour enlèvement et séquestration 24 heures après la disparition d'une adolescente de 17 ans partie faire son jogging. Doctolib bat un nouveau record de rendez-vous pour la troisième dose juste avant la prise de parole d'Emmanuel Macron. Et puis une première dans l'histoire des banques, même si vous êtes gravement malade, le CIC et le Crédit Mutuel vous prêteront de l'argent avec quand même plusieurs conditions. Les courses à l'hippodrome d'Angers, il fallait jouer le 14, le 13, le 7, le 6 et le 12.
Dans un quart d'heure football, l'invité de 18h15 sera Olivier Giroud. Les Bleus, Benzema, Mbappé, on va refaire l'Euro avec la attaquant dans RTL Soir. À 18h30, les dessous de l'actu. Bal médiatique à Colombey, embouteillage de candidats sur les terres du général de Gaulle. 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, focus sur le vrai patrimoine de l'Église. Qu'est-ce que les évêques vont pouvoir vendre pour indemniser les victimes de pédophilie? Au menu également, Thomas Pesquet, qui n'aurait peut-être pas dû rentrer sur Terre, et Lady Gaga en robe blindée.
À 19h15, on va refaire le monde, débattre autour d'Éric Brunet, de l'allocution présidentielle et du pèlerinage à Colombey. Et puis des points réguliers sur le temps avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance?
Bien perturbée entre la Corse et la Méditerranée, plus calme et ensoleillée ailleurs.
Le détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier.
Alexandre de Saint-Aignan.
Après la disparition d'une jeune fille en Mayenne, une enquête est désormais ouverte pour enlèvement et séquestration.
La procureure de la République de Laval, Céline Maigne, vient de l'annoncer il y a quelques minutes.
Les investigations semblent confirmer le départ de cette jeune fille vers 16h de son domicile hier pour faire un jogging, activité qui lui est habituelle. Son père, alerté de la durée inhabituelle de son absence, s'est rendu sur le parcours qu'elle effectue généralement et ne l'y a pas retrouvée. Il a alors décidé d'alerter la gendarmerie. Ses recherches l'ont amené à découvrir différents effets qu'il reconnaît comme appartenant à sa fille et qui sont en cours d'exploitation. 24 heures après cette disparition, les premiers éléments recueillis sont en cours d'exploitation. Ils ne permettent en l'état d'écarter aucune piste, qu'elle soit criminelle, accidentelle ou de fugue.
Voilà, on entend la prudence de la procureure. Hein. Aucune piste n'est écartée. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
L'enquête démarre à peine. RTL vous a révélé ce midi qu'un homme a été interpellé. Il est ce soir toujours en garde à vue.
Oui, un homme de 42 ans interpellé hier soir. Aucun élément matériel ne le relie à ce stade à la disparition de la jeune fille. Mais il a appelé la gendarmerie pour se renseigner en état d'ébriété. Les enquêteurs vérifient donc son emploi du temps. Il ferme la porte, comme on dit dans le jargon policier. Vous le disiez, l'enquête est désormais ouverte pour enlèvement et séquestration. Toutes les pistes sont ouvertes, disait à l'instant la procureure de Laval. Mais bien évidemment, la découverte de traces de sang sur les écouteurs retrouvés par le père de la joggeuse et le profil banal, presque normal de la jeune femme font craindre un acte crapuleux. Les 24 premières heures sont toujours cruciales dans les affaires de disparition. Elles sont désormais dépassées.
Et les recherches se poursuivent avec d'importants moyens mobilisés sur le terrain.
Oui, moyens colossaux décrits par le commandement de groupement de la Mayenne tout à l'heure. 200 militaires de la gendarmerie à pied, à cheval, à motocross. Des plongeurs également ont été déployés ainsi que des hélicoptères, des chiens spécialisés et des moyens techniques de détection. Le terrain de recherche est difficile, vient de souligner la procureure. 190 hectares parsemés de forêts et d'étangs. C'est une course contre la montre qui est engagée pour retrouver la lycéenne.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Son entourage promet des surprises. Emmanuel Macron va s'adresser adressée aux Français ce soir à 20h. La dernière fois, c'était au mois de juillet pour annoncer la mise en place du pass sanitaire. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir.
À 2h de l'intervention du chef de l'État, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ?
Eh bien, il y a d'abord deux aspects. D'abord le sanitaire, là où il est très attendu, c'est sur la troisième dose de vaccin. Selon ses proches, elle seule peut permettre d'éviter la cinquième vague. Faut-il l'intégrer au pass sanitaire pour les plus de 65 ans et les plus fragiles ? C'est la réponse qu'il devra apporter ce soir. Mais comme en juillet, Emmanuel Macron ne parlera pas que de sanitaire, il parlera aussi économie. D'abord, pour se réjouir, la relance est là et selon ses proches, c'est grâce à l'action du gouvernement. Il fera également un point sur les réformes en cours. D'abord, celle de l'assurance chômage. Elle vient d'être validée par le Conseil d'État. Mais surtout, il est attendu sur la fameuse réforme des retraites. Annoncera-t-il ce soir un nouveau calendrier ? C'est l'une des hypothèses sur la table. Réponse à 20h depuis le Palais de l'Élysée.
Les explications signées Thomas Després pour RTL.
On attend donc l'allocution présidentielle 20h à suivre, bien entendu, à écouter sur RTL et ensuite édition spéciale jusqu'à 21h pour décrypter cette prise de parole sur notre antenne.
Avant même les annonces d'Emmanuel Macron, certains Français se ruent sur la troisième dose, un record selon la plateforme Doctolib Odile Pouget. 98 000 prises de rendez-vous en 24 heures.
Oui, du jamais vu depuis le lancement de la campagne. Ce week-end également, les Français se sont précipités pour réserver un créneau, 59 000 au total, trois fois plus que le week-end précédent, qui, il est vrai, tombait pendant les vacances de la Toussaint. En fait, depuis début octobre, les prises de rendez-vous augmentent régulièrement, plus 60% sur un mois. Ce qui va faire évidemment remonter les courbes des injections un peu poussives jusqu'à présent. Aujourd'hui, en effet, seuls 3,5 millions de personnes ont reçu leur rappel sur les quelques 7 millions d'éligibles, c'est-à-dire avec un schéma complet de vaccination depuis plus de 6 mois. Alors ça marche bien pour les résidents des EHPAD, ça marche bien aussi pour les plus de 65 ans qui vivent chez eux. Deux tiers ont franchi le cap. En revanche, les chiffres sont très bas pour tous ceux qui souffrent de comorbidité, réticents à recevoir ce rappel par méconnaissance, par peur aussi d'une répercussion sur leur état de santé. Leur taux de couverture pour ce rappel est estimé seulement à 19%.
Odile Pouget pour RTL.
Les directeurs d'établissements scolaires, eux, n'auront pas accès au statut vaccinal de leurs élèves, mesure censurée par le Conseil constitutionnel qui valide en revanche la prolongation du pass sanitaire jusqu'à fin juillet 2022.
Le gouvernement de son côté confirme la suspension du vaccin Moderna chez les moins de 30 ans en raison d'un risque légèrement plus élevé de myocardite conformément à l'avis rendu hier par la Haute Autorité de Santé.
RTL, 18h07. Arnaud Montebourg tente de recoller les morceaux avec sa propre famille politique.
Ses propos polémiques dimanche dernier au grand jury RTL Le Figaro LCI suscitent l'indignation à gauche. Ils ont déçu jusqu'à son propre entourage, Marie-Bénédicte Allaire. Arnaud Montebourg voulait faire pression sur les pays qui refusent de rapatrier leurs clandestins.
Oui, mais c'est une connerie, tranche un propre conseiller d'Arnaud Montebourg qui ne s'est pas privé de lui dire après avoir entendu ceci au grand jury.
Décidé à taper au portefeuille. Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Eh bien, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération.
Alors hier, une réunion houleuse de l'équipe s'est tenue autour d'Arnaud Montebourg qui est apparu secoué, dit un témoin. Le candidat s'est donc expliqué dans la soirée sur LCP.
Je me suis fait engueuler par des gens que j'aime. J'ai compris que je m'étais mal exprimé. C'est au sens où je ne me suis pas fait comprendre de la véritable cible. La cible, ce sont les États.
Pour l'instant, pas de défection notable chez ses soutiens, sauf les jeunes avec Montebourg, un petit groupe sans réelle influence selon l'entourage du candidat. Mais un tel épisode laisse forcément des traces, reconnaît un ami qui ajoute à lui de se montrer à la hauteur en revenant à ce qu'il fait de mieux, le rôle de la France, la démondialisation, le social.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
Allez, dans un instant, la suite de ce journal sur RTL. Plus besoin d'être en bonne santé pour pouvoir s'endetter. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
18h10, vous écoutez RTL, la suite de votre journal. C'est un secret pour personne. Si vous voulez emprunter de l'argent, mieux vaut être en bonne santé. C'est sur le point de changer peut-être.
Ce matin sur RTL, le directeur du CIC et du Crédit Mutuel a annoncé la fin du questionnaire médical. On ne vous posera plus de questions sur votre santé pour les prêts jusqu'à 500 000 euros. Un dispositif qui concerne uniquement les clients fidèles.
Alors des conditions importantes, mais quand même pour les anciens malades du cancer ou les personnes atteintes atteinte de maladie chronique, Pierre Arbulot, c'est une petite révolution.
Oui, parce que pour elle, obtenir un crédit aujourd'hui relève quasiment de la mission impossible. J'ai pu discuter avec Imen. À cause du questionnaire médical et de son amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire, elle a mis 4 ans pour obtenir un prêt.
À partir du moment où on note une maladie, hop, bouffe, 3/4 du temps qu'on me répond. Je ne reçois même pas de courrier. Derrière, ça veut dire que ça bloque tout, parce que si on n'a pas d'assurance, on n'a pas de prêt. J'imagine faire 10 000 fois un même dossier, 10 000 fois une même pièce, et puis au final, avoir toujours que des échecs. On s'est dit, on arrête.
Une banque a tout de même fini par lui accorder un crédit, mais elle n'assure que son compagnon. Même histoire pour Laura, malgré 13 compagnies d'assurance démarchées. Son mari a un cancer.
Le courtier, pour moi, a été très clair. Il m'a dit, personne n'assurera votre mari. Personne. C'est contraignant parce que mon compagnon, s'il décède, j'ai tout à payer toute seule. C'est une vraie privation de liberté d'accès à la propriété. Ces questionnaires médicaux, c'est juste une machine qui broie les gens qui sont malades, quoi.
Alors, le CIC et le Crédit Mutuel disent vouloir faire bouger les lignes en supprimant ce fameux questionnaire. C'est pour l'instant une initiative très isolée sur laquelle la Banque de France ne fait pas de commentaires.
Pierre Herbulot du service économie de RTL.
Un mot de football, si vous vouliez racheter l'AS Saint-Etienne, vous arrivez un peu tard.
À quelques minutes près, ouais. 18h, heure limite pour déposer un dossier. Les candidats à la reprise de ce club de légende seront probablement 3. Et parmi eux, un prince cambodgien qui va emmener les Verts devant les tribunaux, Christian Olivier.
Oui, l'AS Saint-Etienne rêvait de son prince charmeur, dépositaire d'une garantie financière de 100 millions d'euros, mais le cabinet d'audit chargé d'éplucher les dossiers de reprise a identifié un couac. Tout d'en bas des documents, vous savez, là où il faut tout bien lire, eh bien les experts auraient détecté une anomalie dans l'une des signatures. Les amis deviennent alors ennemis. Le club annonce son intention de déposer plainte pour tentative d'escroquerie, mais le petit-fils de l'ancien roi du Cambodge égalise quelques heures plus tard, menaçant à son tour le club de poursuites judiciaires en dénonçant une opération de déstabilisation. Une chose est certaine, personne à Geoffroy Guichard n'a encore ce soir sabré le champagne, comme le mythomane fantoche escroc canadien Jacques Cachecard, qui en 2007 dansait dans les vestiaires du stade Vélodrome avec les joueurs, auto-convaincu d'avoir racheté à lui tout seul l'Olympique de Marseille.
Ouais, ça rappelle quelques souvenirs, effectivement. Merci Christian Olivier.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Cybèle a été retrouvée. Cette jeune femelle chihuahua avait été volée 5 jours plus tôt dans un camping-car sur une aire de l'autoroute A7 par un malfaiteur qui pensait voler un sac à main, fausse pioche. Il a finalement abandonné l'animal. Il a abandonné l'animal après une cavale de 125 km quand même. C'est un vétérinaire du Var qui a récupéré la jeune chienne saine et sauve.
Voilà, on est rassuré. Merci beaucoup Alexandre. À tout à l'heure sur RTL. Le temps, Peggy, ça donne quoi pour demain?
Attention aux fortes pluies en Corse, puisque les deux départements sont placés en vigilance orange. Les fortes pluies reprennent cette nuit, un épisode qui va durer 2 jours. Des pluies soutenues et orageuses toute la journée demain. Et un important cumul de pluies attendu pendant cet épisode, l'équivalent d'un mois. Donc ce temps maussade, il va déborder sur la Méditerranée jusqu'aux Alpes du Sud, avec de faibles pluies le matin, plus marquées l'après-midi, quelques flocons également sur les Pyrénées et les Alpes dès 2200 mètres. Un peu plus au nord, entre Midi-Pyrénées, sud de l'Auvergne et les Alpes du Nord, là ce sera bien voilé. Partout ailleurs, du soleil. Mais après dissipation de quelques grisailles matinales, ça restera comme aujourd'hui couvert sur les côtes de la Manche. Côté température, on se couvre bien demain matin. Beaucoup de gelée, de moins 2 à 2 degrés, sauf sur les côtes, aux alentours des 10 degrés. Et les maximales, de 8 à Paris à 20 à Nice, 10 à Strasbourg, 13 à Lyon, 15 à Cherbourg et Bordeaux.
Merci Peggy. Une petite pause et puis dans RTL Soir, on refait l'Euro. Olivier Giroud sera notre invité. Les Bleus, Benzema, Mbappé, l'attaquant va se confier sur RTL. A tout de suite.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Faire. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée avec RTL. Et donc ce soir, c'est l'un des footballeurs préférés des Français qui est notre invité. Bonsoir Olivier Giroud.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur RTL au moment où votre autobiographie est republiée. Son titre « Toujours y croire » aux éditions Solar. Elle est mise à jour avec l'échec des Bleus à l'Euro l'été dernier. On va y revenir. Pour commencer, parlons des Bleus d'aujourd'hui, parce qu'ils sont rassemblés là en ce moment à Clairefontaine, et justement depuis l'Euro vous n'êtes plus convoqué. Est-ce que c'est un pincement au cœur de voir les copains continuer la route avec cette équipe pour le moment sans vous?
Écoutez, oui, c'est toujours quelque chose de particulier, l'équipe de France, porter ce maillot bleu. Vous connaissez l'attachement qui est le mien à l'équipe de France. Maintenant j'ai 35 ans, j'ai eu la chance de partager avec cette équipe des moments assez incroyables. Aujourd'hui, il faut peut-être laisser la place aux jeunes, à de nouveaux joueurs, et le coach fait ses choix. Maintenant, je suis toujours un international et disponible si le coach fait appel à moi. Mmh. Mais c'est sûr que oui, c'est particulier de les avoir vus gagner.
On vous sent presque un peu fataliste. Le titre de votre livre, c'est Toujours y croire. Vous y croyez toujours?
Oui, bien sûr. Non, il faut toujours y croire. Maintenant, après, il y a des périodes dans une carrière où il y a des priorités qui sont là. Aujourd'hui, le Milan AC est ma priorité. Le fait de partager du temps avec ceux que j'aime, ma famille, en est une autre. L'équipe de France a toujours été un peu le fil rouge de ma carrière et a toujours été un peu comme une cerise sur le gâteau. Je le prends comme ça, avec beaucoup de recul. Aujourd'hui, c'est que du bonus. Si le coach a besoin de moi, je suis là. Mais voilà, c'est pas une obsession.
On va l'entendre, le coach Didier Deschamps, hier en conférence de presse. Il a été interrogé sur votre absence et sur vos prises de parole aussi. Tiens, écoutez-le.
Chaque joueur est libre de s'exprimer, de donner son ressenti, son avis par rapport à sa propre situation. Non, mais pas... Moi, le plus important pour moi, c'est les discussions que j'ai en direct avec les joueurs. Donc, voilà. Et Olivier, c'est...
Olivier, c'est... Alors, qu'est-ce que vous savez, Olivier Giroud? On a l'impression, quand on entend Didier Deschamps, qu'il y a eu une conversation récente entre vous.
Non, bien sûr, on s'est eu au téléphone il y a un peu plus d'un mois. Il m'a expliqué tout simplement son choix, et je l'ai entendu, donc ça, c'est une chose, c'est entre lui et moi. Oui. Après, mes déclarations, comme le journaliste le dit, ont été faites avec la plus grande sincérité et l'honnêteté qui est la mienne, un peu mon ressenti. J'ai dit comment j'ai vécu cet euro.
Oui, vous le racontez dans votre livre. Alors, c'est vrai qu'on sent que la fin de l'aventure, elle est un peu amère. Vous parlez de tristesse. Vous racontez, je cite, une nuit longue, très longue, après l'élimination contre la Suisse à l'Euro.
On a toujours beaucoup de mal à trouver le sommeil après les matchs, avec l'adrénaline, mais encore plus quand c'est des soirs de défaites, d'échecs. On s'est retrouvés, c'est vrai, avec quelques joueurs dans une chambre. On a refait le monde, mais c'est vrai qu'après, le jour d'après, la séparation, il y avait de l'émotion, parce que je savais que c'était aussi peut-être une page qui se tournait. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Donc voilà, finir comme ça, on avait beaucoup d'ambition, c'était décevant. C'est pour ça que je le dis dans le livre, c'était un moment... un peu douloureux.
On sent que vous cherchez à comprendre aussi les raisons de l'échec. Vous revenez sur le retour de Karim Benzema, qui a tant fait parler. Vous écrivez: sa présence a créé un déséquilibre tactique malgré lui. C'est-à-dire
qu'il n'était pas la cause du fait qu'il a fallu du temps à trouver la bonne solution sur le terrain, tactiquement parlant. Il y a des exemples, peu importe le joueur qui va être amené à intégrer ou réintégrer une équipe dans son cas, la mayonnaise ne se fait pas en quelques jours, en quelques entraînements. Il faut du temps. Prenez l'exemple de Messi, qui arrive à Paris aujourd'hui et il cherche encore les bonnes solutions. Donc il a fallu du temps, et je pense qu'on l'a vu avec la réussite de la Nations League, le dernier carré où l'équipe de France a été compétitive, meilleure. Et d'ailleurs, Karim a été décisif. Donc, je pense simplement qu'il a fallu un petit temps d'adaptation avec ce schéma tactique.
On l'a rappelé trop tard, peut-être, Karim Benzema.
Le temps a fait les choses. Je pense que l'équipe de France va être meilleure encore à l'avenir, avec plus d'automatisme. Mais c'est vrai que mon questionnement était pourquoi l'avoir rappelé aussi tard. Après, bon, il y a un sélectionneur qui est là, il m'a expliqué pourquoi, et donc je l'ai entendu, mais c'est son choix à lui. Après, c'était simplement naturel que l'adaptation prenne un peu de temps. Après, si on avait gagné contre la Suisse, peut-être qu'on aurait dit autre chose, mais...
Vous racontez aussi dans votre livre cet imbroglio avec Kylian Mbappé, qui là aussi a fait jaser au départ. Il y a cette phrase que vous prononcez après un match de préparation à l'Euro, où d'ailleurs vous inscrivez un doublé. On va la réécouter, parce que tous les mots sont importants dans cette phrase.
Ils sont pesés.
Discret, parce que des fois on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire. Après, je prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Et vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce que peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver.
Et il y a Kylian Mbappé se sent visé. Alors évidemment, la presse s'en fait le relais. Dans votre livre, vous écrivez que vous êtes allé jusque dans la chambre de votre coéquipier pour essayer d'apaiser la situation.
Oui, il a fallu jouer un peu les pompiers pour éteindre le feu qui commençait à se mettre en place. Ça a été l'histoire de un ou deux jours après, tout est revenu dans l'ordre. Dans mes propos, vous voyez bien que je suis très mesuré, que je ne cite aucun joueur et que je dis se trouver, pas me trouver. Je fais toujours passer l'équipe en premier. Donc c'est vrai que ce soir-là, la question du journaliste qui me dit très très discret jusqu'à vos deux buts m'avait un peu agacé. Donc il a fallu que je lui réponde. Et donc voilà. Il n'y a pas de souci, j'assume ce que j'ai dit et je l'ai expliqué à Kylian qui s'est senti un peu visé, mais j'ai rien contre lui, il le sait, et je lui ai expliqué et il l'a compris, il fallait qu'il l'entende et après ça, petite histoire qui n'avait pas lieu d'en faire une affaire d'État. Voilà, les journalistes ont sauté dessus, mais je veux dire, c'est les aléas d'un collectif où il y a parfois quelques petits ajustements à trouver, mais tout est rentré dans l'ordre après, et c'est pas à cause de ça qu'on a eu cet échec à l'Euro, quoi.
Un mot sur votre rentrée, Olivier Giroud, après des dernières années, alors un peu plus compliquées en termes de temps de jeu à Chelsea. On vous sent heureux au Milan AC cette saison. C'est vrai que vous débarquez dans un monument du foot mondial qui est de nouveau au premier plan. Vous prenez du plaisir ?
Oui, bien sûr. Pour revenir sur la fin à Chelsea, elle a été un peu frustrante parce que c'est vrai que les dernières semaines, j'ai pas beaucoup joué, mais il y a aussi cette Champions League gagnée.
Ouais.
Voilà, avec un statut de meilleur buteur de l'équipe. Donc c'était une grande fierté, mais c'est vrai que c'est aussi avec beaucoup d'émotions que j'ai quitté ce club et l'Angleterre du coup. Et je découvre un nouveau challenge en Italie où je m'éclate et effectivement où j'ai été très bien accueilli et c'est que du bonheur. J'avais besoin de remettre un petit coup de collier à ma carrière et je sens que voilà, je pense que c'était le bon choix et j'arrive dans un club où j'ai l'opportunité de côtoyer aussi de grands joueurs là-bas, comme Ibra notamment.
Vous parlez d'Ibra, c'est vrai que votre concurrent en attaque, c'est Zlatan, 40 ans, 75 ans à vous deux. C'est un modèle de longévité pour vous, vous voyez encore jouer à 40 ans?
Tout à fait. Je pense que le fait de continuer comme ça, sa carrière aussi longtemps, c'est avant tout une force de caractère, c'est dans la tête, c'est la détermination, combien tu veux continuer, et tu es prêt dans ta tête à faire les efforts et les sacrifices qui sont indispensable au très haut niveau. Il en est un très bel exemple pour les plus jeunes. Je jouerai aussi, je l'ai toujours dit, jusqu'à ce que mon corps me le permette et avec l'envie, la détermination de gagner des titres encore et d'être compétitif pour mon équipe.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Olivier Giroud d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Donc au moment où votre autobiographie est republiée, son titre Toujours y croire aux éditions Solar. Merci d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Allez, on marque une petite pause et ensuite RTL Soir continue. Dans les dessous de l'actu, les dessous du pèlerinage des candidats à colomber les deux églises aujourd'hui. Et puis dans Laissez-vous tenter dernière, Thomas Farsen raconte à vos enfants l'histoire de l'ukulélé.
C'est ma crevette, mon tétard, mon avorton de guitare. C'est ma guitare porte-clé, mon ukulélé.
A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
Bonne fin de journée avec RTL, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Cellier.
Et si vous nous rejoignez, Alexandre de Saint-Aignan vous rappelle les grands titres de l'actualité.
La justice annonce l'ouverture d'une enquête en Mayenne pour enlèvement, séquestration. 24 heures après la disparition d'une jeune adolescente de 17 ans, partie courir près d'une forêt, un homme est actuellement toujours en garde à vue. Emmanuel Macron à nouveau face aux Français. Ce soir, le chef de l'État prendra la parole à 20h. Édition spéciale à suivre sur RTL. Il devrait notamment appuyer la campagne de vaccination pour la troisième dose, mais aussi parler réforme des retraites et travail à 5 mois de l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel donne son feu vert au pass sanitaire jusqu'à l'été prochain, fin juillet 2022. En revanche, le texte qui devait permettre aux chefs d'établissement scolaire de connaître le statut vaccinal de leurs élèves a été censuré.
Merci Alexandre, bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, demain.
Attention, alors demain, de fortes pluies sur la Corse dès ce soir. D'ailleurs, la Corse est en vigilance orange à partir de ce soir, 22h, pour pluie, inondation, puisque c'est un épisode qui va durer jusqu'à mercredi demain. Donc des pluies soutenues en Corse, orageuses toute la journée. Attention aux fort cumul de pluie. Ce mauvais temps va déborder près de la Méditerranée avec des pluies faibles le matin, plus marquées l'après-midi. Et puis ailleurs, ce sera du beau temps après dissipation des grisailles matinales, sauf sur les côtes de la Manche où ça restera couvert. On se couvre demain matin, pas mal de gelée. Et dans l'après-midi, les maximales iront de 8 à 15 degrés jusqu'à 20 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous de l'embouteillage à Colombey, les deux églises. Pèlerinage en Haute-Marne aujourd'hui. Candidats de droite et de gauche à la présidentielle se sont succédés sur les terres du général de Gaulle pour se réclamer de son héritage 51 ans jour pour jour après sa mort. Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
Vous avez assisté à ce ballet des hommes et des femmes politiques dans la petite commune pour RTL, commune paralysée hein, d'ailleurs jusqu'en début d'après-midi.
Oui, beaucoup de gendarmes, de contrôles et de barrières métalliques dans le village. Ce matin, c'était priorité à Jean Castex, accompagné par certains élus locaux, comme Anne Hidalgo et Pierre de Gaulle, le petit-fils du général, en a profité pour faire passer un message à tout le monde.
Je dénonce cette récupération et la famille n'est pas là pour apporter une caution politique à un candidat quel qu'il soit.
Le général n'appartient à personne, mais le restaurant à la table du général, lui, a bien été privatisé par le Premier ministre qui a déjeuné tranquillement avant de rentrer à Paris.
Et quand Jean Castex s'en va, toute la droite débarque, Vincent.
Et chacun a son créneau horaire, en accord avec la préfecture, bien sûr. Alors entre Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, c'est à qui aura la plus belle gerbe de fleurs et le plus de soutien derrière lui pour la photo.
Tout le monde est gaulliste, 5 mois avant les élections. Et ce qui est très inédit cette année, c'est l'état de siège quasiment dans lequel est mis Colombey, avec les herses sur les routes, les blocs de béton, 100 gendarmes mobilisés, parce qu'il y a M. Castex.
Je crois que le général de Gaulle n'aurait pas aimé qu'un Premier ministre interdisent l'accès pendant toute une matinée pour remettre sa gerbe. Maintenant, c'est la vie.
Et puis, vous avez aussi assisté, Vincent, à la grande photo de famille des LR. Alors, est-ce qu'ils étaient bras dessous au lendemain du débat?
Alors, on nous avait promis une arrivée groupée, effectivement, ouais. Et une déclaration unique du patron du parti, Christian Jacob.
La famille de la droite et du centre avance ensemble. Et la droite avance rassemblée et unie.
Sur le terrain, c'était un peu différent. Chacun est arrivé de son côté. Michel Barnier a raté son train et a dû finir le trajet en voiture. Ah. Xavier Bertrand n'a pas décroché un sourire. Et Éric Ciotti, Michel Barnier et Valérie Pécresse revendiquent tous leur attachement au général.
Et moi, je suis profondément gaulliste et non, c'est la première fois que je viens à Colombey.
On avait compris que vous faisiez une arrivée groupée tous ensemble.
On se retrouve à la mairie.
Vous venez souvent ici, monsieur Barnier. Certains de votre primaire ne sont jamais venus à Colombey.
Pas de commentaire là-dessus. Franchement, je ne vais pas. Des comparaisons. Moi, ce n'est pas la première fois que je viens et ça ne sera certainement pas la dernière fois.
Pas d'usurpation d'héritage non plus. Les vrais gaullistes, c'est nous. J'ai l'impression que tout le monde est gaulliste aujourd'hui.
Alors, les candidats sont bien restés quelques minutes dans la mairie. Ils ont ensuite marché ensemble, enfin, jusqu'au cimetière, avant de reprendre des voitures individuelles pour monter jusqu'à la Croix de Lorraine. La photo de famille, vous la verrez donc bien dans les journaux, mais c'était vraiment service minimum.
Les dessous de l'embouteillage à Colombey, les deux églises avec vous ce soir. Merci beaucoup Vincent Derosier. Tiens, on en parlera demain matin de cette photo de famille avec l'un des candidats LR, Xavier Bertrand, qui sera l'invité d'Alba Ventura, 7h40 sur RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Pour l'heure, 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Effectivement, place à LVT dernière tous les soirs. Les jolis conseils de la jolie bande de LVT. C'est Laurent Marcy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors vous voulez nous parler d'un gros coup de cœur pour un livre CD jeunesse qui vient de sortir, l'histoire d'un instrument surnommé La Puce. C'est raconté, c'est mis en musique par un certain Thomas Fersen.
Saute la Puce, c'est le titre de ce livre. Grand format publié aux éditions Margaux. C'est une collection singulière. Chaque livre met en lumière un instrument, un style. On a eu la guitare, on a eu le banjo, on a eu la musique façon Broadway. Voici donc l'histoire d'un instrument surnommé effectivement la puce, le ukulélé. Histoire racontée par l'auteur et interprète Thomas Fersen.
Certains te diront que lorsqu'on en joue, les mouvements des doigts de la main gauche rappellent les sauts d'une puce. D'autres que la main droite balaie les cordes à la façon d'un chien qui se gratte avec frénésie pour chasser l'indésirable de son dos, ce parasite aimant s'y installer pour fonder une famille.
Je me suis documenté parce que je voulais pas raconter n'importe quoi aux enfants. J'ai brodé, raconté ça à ma façon pour ne pas être didactique et que ce soit amusant. Voilà. Je pense que c'est un livre qui me ressemble au fond. Je m'adresse à l'esprit enfantin. Alors l'esprit enfantin peut habiter les enfants mais aussi les adultes parce que parfois cet esprit-là ne vous quitte jamais.
Nous
Poursuivons donc ici les inventeurs de la puce sauteuse. Le ukulélé, il y a 150 ans, Manuel José Augusto, ébéniste de leur état. En vrai, nous raconte Thomas Fersen, il fabriquait des cercueils, c'est moins drôle. Un jour, la famine frappa leur île, celle de Madère, et les trois hommes décidèrent alors de s'embarquer vers des îles au nom appétissant, les îles Sandwich, avec leur petite guitare dans les bras, le ukulélé.
Et les illustrations, elles sont très très jolies.
Alors elles ont une histoire singulière, figurez-vous. Ce sont les œuvres de Benoît de Becker. Thomas Fersen le connaît bien, puisque Benoît de Becker a tout simplement été sa nounou quand le chanteur était môme. Il l'a retrouvé bien des années plus tard. Les deux artistes se sont retrouvés pour ce livre CD. Une aventure que Thomas Fersen aimerait d'ailleurs bien poursuivre.
Le plaisir que j'ai eu à faire ce projet, il me donne envie de continuer, d'en faire d'autres. Il faut que je trouve de bonnes histoires à raconter.
En attendant qu'il trouve d'autres histoires, en voici donc une bonne. Saute la puce aux éditions Margaux. Un petit bijou à lire, à écouter, à glisser sous le sapin. C'est pour les enfants et c'est pour les parents aussi.
Voilà, c'est une bonne idée, effectivement, pour le Père Noël. Merci beaucoup, Laurent Marsic, pour ce joli conseil dans Laissez-vous tenter dernière ce soir. On marque une courte pause et la suite dans RTL Soir. C'est On défait le monde, bien entendu. Les 20 minutes de curiosité quotidienne. Cyprien Sini, oui. Céline Landreau, Laurent Tessier au studio. Bonsoir, les amis.
Bonsoir.
On va s'intéresser dans un instant à la promesse des évêques avec vous, parce que l'Église va indemniser les victimes de pédophilie. C'est officiel depuis hier. La question maintenant, c'est comment ? Avec quel argent ? Réponse juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.